Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être un petit élément relatif au cours de la semaine dernière, dans la séance de questions-réponses après le cours, certains demandaient quelques références pour pouvoir approfondir cette notion de récit d'origine. C'est une notion qu'on utilise d'abord en théologie biblique et que je reprends pour essayer de comprendre aussi le récit d'origine de l'islam. Alors, j'ai amené une référence ancienne, mais qui me paraît toujours intéressante, de Paul Beauchamp, le récit « La lettre et le corps » aux éditions du Cerf en, bien longtemps, 1982. Moins systématique, plus simple, de Paul Beauchamp aussi, « Testament biblique » aux éditions Bayard, avec une préface de Paul Ricoeur. Certains travaux de Paul Ricoeur peuvent évidemment aider à entrer dans toute cette problématique-là aussi, qui est une problématique plus herméneutique. Et ce qui me fait ma transition pour entrer dans l'objet de notre cours de ce soir, puisqu'il est consacré au prophète Mohammed. Et donc, comme la semaine dernière pour le contexte d'origine de l'islam, je vous demande un exercice d'une certaine façon double. Pour ceux qui ne connaissent pas le fil du récit de la vie du prophète, mais c'est un exercice de découverte de la trame d'un récit que l'on ne connaît pas. On apprend un récit. Et puis dans le même temps, puisque notre temps est compté, j'introduis dans mon récit quelques réflexions plus méthodologiques qui permettent peut-être de dégager quelques points pour interpréter ce récit. Donc je vous invite à une naïveté première, croire l'histoire que je vais vous raconter, à un travail critique pour voir ce que cette histoire met en jeu, et puis entrer dans une naïveté seconde pour voir comment ce récit engage dans une intelligence de situation au-delà du contexte auquel il fait référence. Car lorsque l'on aborde la vie du prophète Mohammed, je pense qu'on n'échappe pas à toute cette problématique herméneutique, car il n'existe pas de sources extérieures au Coran et à la tradition sur la vie du prophète Mohammed et sur la prédication coranique. De plus, le Coran lui-même ne se présente pas du tout comme une biographie du prophète, donc il nous livre lui-même très peu d'éléments de type biographique pour savoir qui est le prophète. Pour reconstituer un récit de la vie du prophète comme la tradition l'a fait, on doit s'appuyer principalement sur ce que l'on appelle les traditions ou les hadiths, qui sont des paroles qui ont été transmises de génération en génération depuis l'époque du prophète. C'est une des sources importantes pour la connaissance musulmane dans tous les domaines. Nous le verrons de façon plus technique dans une leçon qui sera consacrée au Coran et au Hadith, source de la foi, le 5 mars. Mais il faut déjà en dire un petit mot maintenant. Donc pour connaître la vie du prophète, nous devons nous référer à ses traditions. Alors, la difficulté, évidemment, de ces traditions orales qui ont été transmises par une chaîne de transmetteurs, c'est de savoir dans quelle mesure elles sont fiables. Et donc, assez tôt, les musulmans ont été amenés à s'interroger eux-mêmes sur la fiabilité des traditions qui avaient tendance à se multiplier à l'infini. Du moment que l'on avait ce qu'on appelle une bonne chaîne de transmetteurs fiable historiquement, on pouvait, à la limite, inventer n'importe quelle tradition. Du moment que ma chaîne de transmetteurs était fiable. Et donc, on avait une multiplication des traditions, et il y a eu un travail critique qui a été fait par la tradition musulmane elle-même pour rassembler les traditions qui paraissaient les plus fiables et ainsi pouvoir reconstituer une vie du prophète Mohammed. Néanmoins, d'un point de vue critique, nous devons bien nous rendre compte que ce travail de critique des traditions a été opéré au 8e, 9e siècle de notre ère, à une période où il y avait déjà une forte idéalisation de la personne du prophète, et que donc la fiabilité historique n'est pas la plus élevée. Néanmoins, on a reconstitué un récit important pour les musulmans jusqu'à aujourd'hui, parce que même s'il ne correspond pas entièrement à la réalité historique, c'est un récit qui exprime une identité pour des communautés de croyants musulmans, en tout cas à partir du 8e et du 9e siècle de notre ère. Donc ce récit est important. Le simple fait qu'il ne soit pas entièrement fiable sur le plan historique ne le discrédite en rien au niveau religieux comme expression de ce qui fait la foi des musulmans. Donc, dans le travail que nous allons faire ce soir, je vais vous inviter à entrer dans ce récit tel que la tradition musulmane nous le présente, sans dire que c'est ainsi que cela s'est passé, mais finalement, là n'est pas la question, comme dans l'échange de la fois dernière, nous le disions également après le cours, il en est de même pour les évangiles, ils nous donnent un profil de la vie de Jésus, mais leur visée n'est pas historique, elle est d'exprimer l'identité chrétienne dans une relecture à partir de l'expérience chrétienne. Il en est de même dans les reconstitutions qui sont faites de la vie du prophète Mohammed au 8e et 9e siècle de notre ère. Les premières tentatives qui ont été faites de reconstituer la vie du prophète, de regrouper les traditions en un récit suivi pour en faire une biographie du prophète, remontent à la fin du 7e siècle. À la fin du 7e siècle, mais elles sont perdues. Nous savons qu'elles ont existé parce que les chroniqueurs du 8e et du 9e disent s'appuyer sur ces traditions du 7e. Mais donc, il est difficile, à partir des quelques petits fragments du 7e dont nous disposons, de savoir ce qu'il en était de ces essais de biographie suivis du prophète à partir des traditions qui ont été réalisées à la fin du 7e siècle. Donc ce sont des compilations de traditions réalisées au 8e et 9e siècle qui sont à la base de toutes les biographies du prophète qui ont été développées dans le monde musulman. Du côté occidental, ce n'est vraiment qu'à la fin du 19e siècle qu'ont débuté les recherches sur la biographie de Mohammed. Et les travaux qui étaient faits à l'époque, il faut bien se rendre compte qu'il fallait surmonter, qu'il y avait une masse de documents à traiter, qu'il y avait tout un travail de traduction à faire de l'arabe. Les travaux de l'époque ont en général conduit à retenir le cadre chronologique proposé par la tradition musulmane, tout en réduisant fortement la valeur des traditions comme source historique. Mais de façon générale, l'islamologie occidentale a retenu jusqu'il y a peu comme hautement vraisemblable le cadre historique général proposé pour la vie du prophète Mohammed. Dans le développement que je vais faire, Je vous signalerai néanmoins quelques questions plus récentes qui se posent et qui, à mon avis, enrichissent la lecture en permettant de mieux percevoir les enjeux de ce récit en termes de récit d'origine. Outre les traditions, on a en général considéré également que la critique interne du Coran donnait un reflet également de la vie du prophète Mohammed en voyant les grands défis auxquels le prophète a été confronté et les révélations qui lui ont été données face à ces défis. L'examen du schéma de vie du prophète Mohammed que nous donne la tradition ressort du point de vue de l'histoire générale des religions d'un schéma excessivement classique. Alors cela peut être développé dans deux sens, soit pour confirmer qu'effectivement le prophète Mohammed s'inscrit bien dans le type d'expérience prophétique telle que l'humanité l'a connue à travers d'autres personnages, soit dire qu'on a inscrit les traditions dont disposait dans un schéma qui était connu par ailleurs. Donc ça peut être soit pris dans un sens plus critique, soit pris dans un sens corroboratif par rapport aux données de la tradition. Et ce schéma classique de la vie des prophètes, tel que l'histoire des religions un peu ancienne l'a mis en évidence, c'est que dans les grandes figures prophétiques, il y a en général une période de recherche spirituelle de la part du prophète, une période de choc de l'appel divin, suivie d'une période de doute, et se terminant, se prolongeant par une période de certitude et de prédication qui se clôture alors dans une phase d'action et d'organisation temporelle. C'est le schéma qui a été développé par plusieurs auteurs en théologie des religions et qui s'applique effectivement fort bien à la figure du prophète Mohammed telle que la tradition musulmane nous le présente. On considère en général qu'il n'y a que deux repères. Ah oui, est-ce que je peux faire ça par rapport au micro ? Je peux le promener ? Qu'il n'y a que deux repères chronologiques établis pour la vie du prophète Mohammed. Qui sont 622, la date de l'Égir, le moment où le prophète Mohammed quitte la Mecque pour Yathrib, la ville de Médine, nous y reviendrons, et 632, la date de sa mort. La date de 622 est une date tout à fait importante, puisque c'est le début de l'ère musulmane. Ce qui va se passer en 622 est considéré par les musulmans comme étant vraiment fondateur, l'acte de naissance, d'une certaine façon, de la communauté musulmane. Néanmoins, si nous nous plaçons dans une perspective de récit d'origine, certains auteurs soulignent, non sans intérêt à mon avis, que la grande histoire retient également la date de 622 pour un autre événement. La date de 622, c'est aussi l'année de la victoire d'Héraclius, l'empereur de Byzance, sur les Perses en Arménie. Et à cette occasion, suite à cette victoire d'Héraclius, l'influence des Perses sur l'Est byzantin, à savoir la Syrie et l'Irak actuels, va progressivement décroître, sans que l'Empire byzantin ne tente d'annexer réellement au sein de l'Empire les régions libérées par les Perses. Ce qui veut dire qu'à partir de 622, il y a dans cette région, brièvement dit la Syrie et l'Irak actuels, comme un espace libre où des dynasties arabes vont pouvoir se développer. Donc, le cadre dans lequel se situe la naissance de l'islam, ce 622, y renvoie en tout cas aussi à un autre événement dans la région. Et un autre événement fédérateur d'identité arabe autour du christianisme au départ, puisque des formes de christianisme non byzantin, non orthodoxe, dirions-nous, des formes de christianisme, et on en a quelques traces sur les monnaies utilisées à l'époque. Donc, on se rend compte que le contexte de naissance renvoie aussi à des enjeux géopolitiques dans la région. Le choix par la tradition de 622 comme date de l'Égypte peut bien sûr référer à un événement qui se serait passé en 622 dans la vie de Muhammad, mais il est intéressant, je pense aussi, de pouvoir faire le lien avec cette question d'une unité arabe et d'une identité nationale face aux grands empires perses et byzantins. Donc 622 et 632, les deux dates qui sont traditionnellement considérées comme les repères principaux au niveau chronologique pour la vie du prophète Mohammed, 632 étant l'année de sa mort. Toutes les autres dates sont considérées par la tradition elle-même comme relativement approximatives, même pour sa naissance, suivant les traditions, on la situe entre 569 et 573 de notre ère. Du père de Mohammed, Abdallah, on sait très peu de choses, si ce n'est qu'il était le fils de Abdel Muttalib, le chef du clan de Hashim de la tribu de Quraysh, et qu'il mourut avant la naissance de son fils. Donc, Mohammed est à sa naissance orphelin de père, mais il naît d'un père qui a un rôle important dans l'organisation de la vie à la Mecque. Il perdra sa mère rapidement aussi, quand il a 5-6 ans, et il sera d'abord confié à son grand-père, puis à son oncle, Abu Talib, le père de Ali. J'inscris quelques noms, les principaux, ceux que l'on retrouvera dans la suite de notre soirée. Donc son oncle, Abu Talib, qui est le père de Ali, qui est donc le cousin du prophète Mohammed. Lors d'un voyage où il accompagnait en Syrie la caravane de son oncle, je vous avais dit la semaine dernière que la ville de La Mecque vivait principalement de commerce, donc de grandes caravanes commerciales, un lieu d'échange et de commerce. Lors d'un des voyages où il accompagnait son oncle, un moine chrétien, nous dit la tradition, aurait reconnu Mohammed, le prophète, à divers signes et aurait prédit sa destinée merveilleuse. C'est bien sûr une tradition apologétique postérieure, mais il est intéressant de voir comment elle se situe dans ce récit d'origine qui dit l'identité de l'islam, donc d'une reconnaissance de la qualité du prophète Mohammed par un moine chrétien. En fait, étant né et ayant vécu dans la ville de la Mecque, qui était une ville, nous l'avons vu la semaine dernière, essentiellement païenne, il est hautement vraisemblable que le prophète Mohammed a dû lui-même participer dans sa jeunesse à des rites païens, hein, bien que les traditions s'efforcent de le nier. À l'âge d'environ 25 ans, une riche veuve, Khadija, l'associe à son commerce. Et lors d'une caravane en Syrie, il aurait une nouvelle fois été salué comme un prophète par un religieux chrétien. Il épousera cette riche veuve Khadija et ce mariage sera heureux, bien que tous les fils nés de cette union mourront en bas âge, tandis qu'une des filles, Fatima, épousera Ali et leurs enfants formeront la seule postérité de Mohammed. Le mariage du prophète Mohammed avec Khadija l'avait libéré des préoccupations matérielles et dans la tradition, vers 30 ou 40 ans, il a connu une crise religieuse. Il était en recherche et au cours d'une des retraites pieuses qu'il faisait chaque année selon la tradition pour pratiquer le jeûne et la méditation, il ressentit une illumination qu'il considéra comme un appel divin. Vous vous rappelez la semaine dernière que j'avais évoqué cette figure de Hanif, de ces croyants au Dieu unique qui ne se seraient rattachés ni au judaïsme ni au christianisme, donc qui étaient, d'après la tradition, comme une attente finalement d'une foi monothéiste dans ce monde païen. Et donc, ces retraites que le prophète Mohammed faisait chaque année pourraient s'inscrire dans ce que la tradition présente sous ses traits. Et c'est au cours d'une de ces retraites qu'il fait l'expérience de la révélation, d'une première révélation qui lui est transmise par un être qui apparaît d'abord à l'horizon, puis plus près, et qui lui fait une révélation qu'on identifie en général au premier verset de la sourate 96, hein, où il est dit « prêche, ikra, hein, prêche, lit, récite », un mot, ce serait plutôt littéralement « récite hein, »,« récite au nom de ton Seigneur, qui créa l'homme d'une adhérence, récite, ton Seigneur étant le très généreux qui enseigna par le Kalam. » Les traditions présentent également une version un peu différente. Mohammed aurait vu en songe un ange qui lui ordonnait de réciter un texte brodé sur une étoffe. Et comme il se déclarait incapable de le faire, l'ange le pressa jusqu'à l'étouffer et Mohammed récita alors la révélation de cette même sourate 96. Lorsqu'il s'éveilla, l'ange se serait identifié comme étant Gabriel, et c'est seulement alors qu'il aurait vu la double apparition signalée par le texte coranique. Donc il y a une inversion des deux événements d'après une tradition, un hadith. Quoi qu'il en soit, il semble que Mohammed n'a pas été d'emblée convaincu de l'origine divine de sa mission. Il a connu une période de doute et d'abandon qui le poussa jusqu'à la limite du désespoir, bien qu'il fût soutenu par sa femme, jusqu'à ce qu'une nouvelle révélation fasse s'évanouir les doutes. La révélation coranique est, d'après la tradition en général, souvent décrite par Mohammed comme se faisant par l'intermédiaire d'un ange, parfois visible sous une forme humaine, ou par une perception interne diffuse, ou encore comme le tintement d'une clochette dont le prophète ne comprenait le sens qu'après coup. Quand il sentait fondre sur lui la révélation, Mohammed se fait couvrir de son manteau. Et la prédication gardera un caractère caché pendant 3 ans environ et limité à un tout petit cercle de premiers convertis, Khadija, Ali et 2 notables Mekkois, Othman et Abu Bakr. Je note leur nom dans la mesure où nous les retrouverons la semaine prochaine. Donc, Mohammed, Khadija. Abu Bakr et Othman. Donc la révélation se présente comme quelque chose donc, qui advient au prophète et qui s'inscrit dans une durée. Hein, donc ce n'est pas un événement unique. La tradition nous dit aussi que c'est un événement qui se manifeste de différentes façons, hein, soit un songe, soit une vision, soit un tintement de clochette qu'il faut interpréter. Hein, cette diversité que la tradition musulmane elle-même reconnaît dans ses récits d'origine est intéressante parce qu'elle est un peu oubliée aujourd'hui hein, dans le monde musulman. Et nous le verrons par la suite dans la théologie sur la révélation, le nuzul, le tanzim. Cette diversité sera quelque peu occultée. Mais il y a là sans doute une richesse pour le monde musulman aujourd'hui de redécouvrir cette diversité que les traditions musulmanes elles-mêmes affirment. La tradition musulmane a alors abordé la question de la révélation sur les différentes périodes qui ont couvert la vie du prophète jusqu'à sa mort. Et cela a permis de classer les sourates, les chapitres du Coran, suivant les périodes de la vie du prophète où ils ont été révélés, descendus sur lui. Parce que dans l'interprétation du Coran, nous le verrons plus tard de façon traditionnelle, on considère que les asbab en-nuzul, les causes de la descente, sont un élément qui permet de comprendre le sens du texte. Et donc, il y avait un intérêt pour la tradition musulmane de pouvoir reconstituer, répartir le texte du Coran aussi en fonction des périodes de la vie du prophète. Et dans cette reconstitution traditionnelle, les plus anciens textes de la période initiale de la prédication paraissent être des sourates brèves, ponctuées de serments solennels aux rimes riches et où éclate toute la conviction du prédicateur et qui font appel à différentes vertus telles que la pratique du bien, la pénitence, la charité envers les pauvres et les orphelins et des vertus qui sont finalement assez étrangères au contexte païen mais qui peuvent avoir été influencées par le judaïsme ou les formes de christianisme présentes dans la péninsule arabique. Ces textes mentionnent aussi le Dieu créateur et tout-puissant. Dès le départ, dès les premières révélations, à ce sens que Dieu est créateur et tout-puissant est très prégnant. Ces thèmes se développeront dans les révélations ultérieures et l'idée de la toute-puissance divine se reflétera dans le jugement dernier, qui est un thème important aussi de la première prédication. Ce thème comporte la description des cataclysmes qui annoncent le jugement, les signes de l'heure, comme on les appellera, mais aussi du sort des damnés auxquels s'opposent les délices réservés aux élus. Et il s'agit dans cette première prédication d'un événement imminent. Autre thème présent à ce moment, c'est celui du Dieu créateur auquel l'homme doit de ce fait la reconnaissance et le repentir, c'est-à-dire une attitude qui se met en contraste fort avec l'insouciance de l'infidèle. L'unicité divine, qui sera un thème très important dans la suite, n'est pas encore explicitement proclamée dans les textes de la toute première révélation, ce peut être dans un souci de ne pas entrer en confrontation directe avec l'oligarchie mécoise, car, comme je vous le disais, donc la ville de la Mecque vit de grands marchés où viennent toutes les tribus, et donc son sanctuaire se doit d'être accueillant à toutes les idoles des environs. Donc proclamer trop directement que Dieu est unique risquerait bien de ruiner le commerce, puisque les autres tribus ne s'y sentiraient plus les bienvenus. Donc le thème de l'unicité n'est pas souligné fortement dans les tout premiers textes. D'après les textes de cette époque, les croyants effectuaient déjà deux ou trois prières quotidiennes. Il y a aussi des invectives dans ces textes qui attestent l'existence d'une certaine opposition, car même sans s'attaquer directement au paganisme, la prédication menaçait ce dernier et par conséquent, comme je le disais, la prospérité de la ville. La prédication représentait d'ailleurs les riches comme voués au feu de l'enfer, ce qui devait aussi irriter quelque peu les riches commerçants et dirigeants de la Mecque. La résistance rencontrée provoque aussi un certain raidissement de la prédication, qui parle notamment de l'obstination des polythéistes et la menace plus nette d'un jugement imminent, mais dont l'heure est connue de Dieu seul. Donc nous voyons une première prédication à la tonalité prophétique forte, qui dérange, qui est centrée sur la justice, sur le culte à rendre à Dieu, sur la conversion. On distingue alors en général une seconde étape, on distingue trois, dans la période d'activité du prophète à la Mecque. Une seconde période qui regroupe une vingtaine de sourates, qui se distingue des précédentes à la fois par leur style et par leur contenu. Elles sont tout d'abord plus longues. Le ton est aussi moins direct, moins agressif. Le ton est plus calme. L'épithète El-Rahman, le miséricordieux, qui désignait Dieu aussi dans les milieux chrétiens juifs d'Arabie, fait son apparition de façon plus importante. On rencontre beaucoup d'exposés en triptyque qui comportent pour une affirmation dogmatique, prenons par exemple l'unicité de Dieu, des récits de prophètes bibliques ou arabes qui viennent illustrer, qui ont tenté par exemple de vaincre en vain une population impie, et une conclusion qui invite à se convertir pour éviter le sort qui fut réservé à ces impies. Donc dans ces sourates, on voit bien le lien aussi que la révélation coranique, dès son origine, a avec les révélations antérieures, puisque les récits de prophètes bibliques sont des récits que nous avons hein, dans nos Bibles également, et qui d'ailleurs, de façon intéressante, ne sont souvent dans le Coran que de façon allusive, et sans supposer que l'on connaît le récit par ailleurs. Hein, donc ce qui suppose qu'effectivement, les échanges avec des communautés juives et chrétiennes étaient significatifs à la naissance de l'islam. Dans ce groupe de sourates de la deuxième période de la Mecque, la nette rupture avec le polythéisme mécois se manifeste aussi. L'unicité de Dieu est opposée au polythéisme et Mohammed se défend d'être un possédé, ce qui suppose que l'on l'en accusait. S'il ignore l'heure du jugement, c'est parce qu'il s'agit d'un mystère réservé à Dieu. Mais les polythéistes ne pourront pas invoquer leur ignorance lorsque l'heure arrivera, puisque la révélation est maintenant faite dans une langue arabe claire. Dans cette perspective s'accentue aussi le parallélisme avec la mission des prophètes antérieurs qui n'ont pas été écoutés. L'imminence du jugement comporte également une autre implication qui sera ultérieurement fort accentuée par l'islam, à savoir que Mohammed est le dernier des prophètes. Si on se réfère effectivement à tous les récits des prophètes antérieurs, mais que l'heure du jugement est imminente et que Mohammed est un prophète, il a la qualité du dernier des prophètes. Enfin, il y a pour la période de la Mecque un dernier groupe d'une vingtaine de sourates qui peut renvoyer à une troisième période de l'activité de Mohammed à la Mecque. Ces sourates se distinguent des précédentes par les éléments suivants. Les versets sont plus longs et plus clairs, le style a perdu son hermétisme, les rimes et les assonances, le côté poétique est plus pauvre. Des sortes de paraboles y apparaissent, évoquant les phénomènes de la nature et l'action divine. La bienfaisance de Dieu et l'unicité divine sont spécialement traitées dans les textes de ce groupe. Bienfaisance et unicité divine. Les récits des prophètes antérieurs sont amplifiés et plus détaillés. Et au point de vue chronologique, ces textes fournissent des allusions, bien insuffisantes sur le plan de la critique historique, mais des allusions à trois événements que la tradition commentera et qui tiendront une place importante, surtout pour le premier. Le début de la sourate 17 date de cette époque où il est dit: gloire à celui qui a transporté son serviteur, Muhammad, la nuit, depuis la demeure sacrée, le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque, à la demeure très éloignée, Jérusalem, Al-Quds, le temple, autour de laquelle nous avons mis notre bénédiction. Et d'après la tradition, il s'agirait d'un voyage nocturne, réel, selon les uns, symboliques selon les autres, au cours duquel Mohammed fut transporté à Jérusalem sur une jument ailée à tête de femme. Et un biographe, Ibn Ishaq, place ce voyage environ 5 ans avant l'émigration à Médine, soit vers 617. Ceci permet simplement de situer le groupe de textes auquel appartient cette allusion, qui sera reprise et amplifiée ultérieurement par différents courants mystiques et ésotériques, mais qui est évidemment une image tout à fait intéressante, hein, ce voyage nocturne du sanctuaire de la Mecque à Jérusalem. Nous verrons que ce rapport entre la Mecque et Jérusalem est un thème que nous allons retrouver, si tout va bien, encore aujourd'hui. Je souligne ainsi en passant, mais quelques éléments qui, évidemment, s'ils sont les plus difficiles face à la critique historique, n'en restent pas moins très intéressants en termes de récits d'origine, dans ce qu'ils expriment d'une identité et d'un rapport à d'autres traditions. Je disais des allusions à trois événements, donc il y a le voyage nocturne, puis les textes de cette dernière période mécoise marquent aussi un contact plus marqué avec des Juifs, probablement pas de la Mecque, mais ceux de Yathrib, la ville qui deviendra Médine plus tard, où se rendra le prophète. Et c'est dans ces textes qu'apparaît en effet la notion d'une religion monothéiste primitive, scindée ensuite en plusieurs sectes, chrétiennes et juives, par la malice humaine. Donc la révélation coranique se réclame déjà à ce moment-là, au moment de la Mecque, de la religion monothéiste pré-mosaïque, donc d'avant Moïse, et rattachée à Abraham. Donc ça, je crois que c'est un élément à bien saisir, hein, pour nous, majoritairement sans doute, de tradition chrétienne, hein, c'est que les musulmans se pensent, depuis l'origine, comme issus de la tradition monothéiste abrahamique, mais dans un rattachement pré-mosaïque, donc avant le don de la loi. Un troisième trait historique que l'on peut rattacher à cette dernière période, c'est un net raidissement à l'égard du paganisme, des païens de la Mecque. L'affirmation d'unicité divine est accompagnée d'attaques contre les idoles. L'impuissance des idoles est mise en contraste avec la clairvoyance et la science de Dieu. Ce raidissement à l'égard du paganisme au cours de cette période illustre l'ambiance d'événements dont parle la tradition, mais en leur donnant plus d'ampleur. Quoi qu'il en soit, le prophète, redoutant sans doute le durcissement des conflits à ce moment-là, commence à prendre des contacts avec l'extérieur, se disant que l'avenir de sa communauté dans la ville de la Mecque n'est sans doute pas assuré. Il enverra d'abord une première petite délégation en Abyssinie, en Éthiopie, mais cela sans doute vers 617, mais ces émigrés reviendront rapidement. Mais par contre, des contacts vont être pris avec la ville de Yathrib, qui est une oasis, donc une population plus sédentaire et plus agricole, et où vivent des communautés juives bien organisées, qui ont des rabbins, une école rabbinique, etc., et des groupes également païens. Une ville qui se trouvait quelque peu divisée, et qui donc était assez ouverte à la perspective d'accueillir en son sein quelqu'un qui pourrait faire l'unité et offrir un avenir à cette ville de Yathrib. Et c'est ainsi que se met en place ce projet qui se réalisera en 622 d'une émigration de la Mecque vers Yathrib, qui prendra plus tard le nom de Médine. Mais le mot Médine veut simplement dire ville. Hein, son nom complet, c'est Madinat Nabi, la ville du prophète. Hein, comme les Romains appelaient Rome Urbs. Hein, on donne à la ville principale le nom simplement de ville. Et c'est en 622 qu'eut lieu l'émigration de la presque totalité de la communauté de la Mecque, y compris son chef. L'oligarchie mécoise ne s'est pas du tout opposée à ce départ, et cette émigration servit 15 ans plus tard à fixer le départ de l'ère musulmane, ce qui montre l'importance de cet événement comme événement fondateur. L'ère musulmane qui suit une année lunaire, donc une année qui est 10 à 11 jours plus courte que l'année solaire, donc pour savoir en quelle année nous sommes de l'ère musulmane, il ne suffit pas de faire 2015 moins 622, et donc ce sont des années un petit peu plus courtes. Pendant la période médinoise, qui s'étendra sur encore 10 années, donc le prophète meurt en 632, la vie de la communauté est marquée par tous des aspects davantage d'organisation. Car le prophète, à ce moment-là, n'est plus simplement un leader religieux à la tête d'un petit groupe un petit peu contestataire dans une ville païenne, mais il se trouve chargé d'attentes organisationnelles aussi à l'égard de toute une cité qui comprend bien sûr les émigrés, mais aussi des païens dont beaucoup vont se convertir à l'islam, mais aussi des tribus juives dont le prophète au départ penserait qu'elles se convertiraient sans problème, considérant la révélation coranique comme étant le prolongement des révélations antérieures. Il y aura de nombreuses dispositions juridiques qui viseront à résoudre les nouveaux problèmes qui se posent à la communauté. Et ces différents textes peuvent en général être datés avec plus de précision en recoupement avec la tradition. Il n'y a pas de différence notable de fond ou de forme entre les sourates de la période médinoise, mais historiquement, ce sont plutôt les événements importants qui vont marquer des périodes. On considère en général qu'il y a une première période, qui est une période de consolidation, d'organisation, de défense, qui va de 622 à 627, et une deuxième période qui va de 627 à 632, qui sera davantage une période d'expansion et d'offensive. Dès l'arrivée à Médine des immigrés, la communauté dut s'organiser et résoudre de multiples problèmes. Les rapports entre les émigrés, ceux qui étaient venus de la Mecque, et les auxiliaires, les Médinois convertis, les moyens de subsistance des émigrés, c'est une oasis, donc on ne développe pas les ressources de la terre si facilement que ça, donc il faut envisager d'autres moyens pour se nourrir, l'organisation du culte, la réalisation de l'idéal de justice sociale prôné par la révélation, tous les problèmes juridiques divers liés à la vie ensemble, toutes ces questions seront rejointes par les révélations données aux prophètes, en apportant en général des solutions ponctuelles. Ce ne sont pas des grandes règles générales. Et d'ailleurs, ça marquera le droit musulman par la suite. Nous le verrons, ce n'est pas un droit codifié. C'est un droit casuistique. Plus dans la tradition anglo-saxonne que dans notre tradition de droit romain. À Médine, Mohammed devient le chef non seulement des émigrés, mais encore des auxiliaires, ce qui bouleversait les cadres tribaux traditionnels et instaurait de ce fait une sorte de théocratie. Et le texte du Coran relève d'ailleurs cette situation unique de la communauté musulmane. Cependant, à l'échelon des relations entre groupes, le prophète maintient très habilement les structures et les coutumes tribales consacrées. Et nous verrons, principalement la fois prochaine, que dans toute l'expansion de l'islam, ce sera dans tous les grands empires, quelque chose de très présent aussi. Le respect des coutumes et des traditions locales, on ne vient pas tout bouleverser du jour au lendemain. L'organisation politique de la nouvelle communauté semble achevée dès 623. Par contre, la réglementation du culte s'est étendue sur plusieurs années et s'est précisée notamment en relation avec divers épisodes de la lutte contre les juifs et contre les polythéistes. Déjà à la Mecque, certains jeûnes et pratiques rituelles des juifs avaient été adoptés par les musulmans. Dans un premier temps, le prophète avait cru que sa prédication, qui dans son esprit ne faisait que continuer celle de l'Ancien et du Nouveau Testament, serait acceptée sans difficulté par les juifs. Il n'en fut rien. Aussi, la révélation se fera de plus en plus dur à l'égard des Juifs, en rappelant leurs fautes, en rappelant qu'ils ont douté de Moïse, qu'ils ont adoré le veau d'or. Et symboliquement, la rupture religieuse avec les Juifs se produira, selon la tradition, en 624, donc 2 ans après l'Égir, au moment où la révélation changera la qibla, la direction de la prière. Jusque-là, les premiers musulmans priaient en direction de Jérusalem. Et à partir de 624, on change la qibla, la direction de la prière, pour que cela devienne la Mecque, c'est-à-dire, non pas ce sanctuaire païen, mais ce sanctuaire qui remonte à Abraham lui-même. Il y a toutefois un hadith de tradition mystique, mais enfin je trouve beau, qui dit qu'à la fin des temps, tous prieront de nouveau dans la même direction, celle de Jérusalem, la grotte. Donc, en changeant la direction de la prière, ce n'est pas simplement un rapport au judaïsme qui est rompu, mais c'est vraiment l'institution de l'islam comme religion propre, car il a son propre sanctuaire qui renvoie au monothéisme commun, abrahamique, puisque selon la tradition musulmane, la Kaaba, le sanctuaire de la Mecque, n'est pas à l'origine un sanctuaire païen, mais bien un sanctuaire qui a été fondé par Abraham lui-même et son fils Ismaël, avant d'être détourné par la suite par les païens pour en faire un temple païen. Donc l'islam restitue finalement le temple de la Mecque à sa destination originale, qui est une destination monothéiste. Donc ce changement d'orientation de la prière place vraiment l'islam comme religion autonome par rapport au judaïsme et bien sûr par rapport au christianisme. Les temps de jeûne aussi, qui étaient repris au départ du judaïsme, sont simplifiés. Ils sont tous supprimés, à l'exception d'un seul qui est introduit, celui du mois de Ramadan, qui commémore la révélation du Coran. Donc selon la tradition, il y a une nuit durant laquelle le Coran, une nuit de Ramadan, a été descendu de façon tout entière comme un rappel sur le prophète Mohammed. De même, certaines prescriptions alimentaires plus rigoristes des Juifs sont aussi abandonnées. À partir de 623, on voit aussi différents coups de main qui sont lancés contre les polythéistes mécois et leurs caravanes, dans le but notamment de procurer un approvisionnement aux émigrés. En 624, eut lieu la bataille de Badr, au cours de laquelle les musulmans ont dressé une embuscade aux commerçants mécois, mais ils se sont tellement exaltés à piller la caravane qu'ils ont permis aux Mécois de se ressaisir et ils ont été défaits. Ils ont été blessés là dans leur amour propre, mais le prophète, la révélation, y a vu le fait qu'ils n'ont pas suivi l'avis du prophète qui leur avait recommandé de rester à l'intérieur de la ville et de ne pas en sortir. Par cette défaite, finalement, l'autorité du prophète s'est trouvée renforcée par la révélation, comme la révélation le confirmera par la suite, puisque la défaite a été attribuée au fait qu'on s'était écarté de la vie initiale du prophète. Dans ces années-là, le prophète connaîtra encore plusieurs unions conjugales. En 627, il y aura une nouvelle opération des Mécois contre Médine, mais cette fois-ci, les musulmans resteront à l'intérieur de la ville en ayant creusé un fossé tout autour de la ville et qui empêchera sa prise, et ils sortiront victorieux de cette victoire, de cette bataille qui va inverser le rapport entre les Mécois et les Médinois à l'avantage des Médinois. Et donc cette bataille du fossé marque en 627 un tournant qui inversera le rapport de force et qui induit une deuxième période qui sera une période d'expansion de la première communauté, avec entre autres la reprise de la ville de la Mecque et la restitution du sanctuaire à son culte initial, son culte monothéiste. Le prophète Mohammed pourra réaliser en 632 le pèlerinage à la Mecque que les musulmans de Médine avaient déjà pu faire en 631 suite à un accord qui avait été passé avec les Médinois. Et ce pèlerinage de 632 du prophète Mohammed est le dernier pèlerinage, puisque c'est peu de temps après qu'il mourra. Et tous les gestes du prophète Mohammed au cours de ce pèlerinage de 632 seront soigneusement gardés par la tradition pour être destinés à une sorte de modèle de démarche de pèlerinage. Rentré souffrant à Médine, le prophète préparera une nouvelle expédition contre la Transjordanie, mais en mai, la maladie s'aggrava et le prophète mourut, selon la tradition, la date du 13 Rabi Awal de l'an 11, ce qui correspond au 8 juin 632 de notre calendrier. Les circonstances exactes de sa mort sont décrites de façon contradictoire par les traditions, et le soir même, on l'enterrait secrètement dans une des pièces de sa maison. Donc voilà, dans les toutes grandes lignes, il y a un petit peu plus dans les notes, dans les toutes grandes lignes, le schéma de la vie du prophète Mohammed. Et donc, comme je vous le disais en commençant, je vous invite bien sûr à le recevoir comme un récit important pour les musulmans, mais donc un récit que nous devons aussi entendre, et que je crois que les musulmans gagneraient aussi à entendre, comme un récit d'origine, c'est-à-dire un récit qui nous permet de saisir ce qui sera constitutif de l'identité des musulmans plus tard. Parce qu'au moment où ce récit est produit, on est nettement plus tard. On n'a pas un accès direct aux sources historiques. Et donc, ce que l'on rapporte de la vie du prophète, c'est ce qui dit notre identité à ce moment-là. Et donc, vous avez vu quelques points que j'ai déjà signalés. Le rapport à la tradition abrahamique, le rapport aux juifs, le rapport entre la Mecque et Jérusalem, la question d'une identité arabe par rapport aux empires perses et byzantins. Vous voyez que ce sont toutes des questions, si je les énumérais comme ça, vous ne diriez pas que je parle du 7e ou du 8e siècle, mais du 21e. Ce sont toutes des questions qui traversent encore les grandes tensions de notre monde aujourd'hui. Donc, dans ce récit d'origine, se noue déjà tout ce qui fait une identité et un rapport à l'autre. Donc, la façon de relire ce récit d'origine et de pouvoir en reconnaître aussi le caractère pluriel sera, à mon avis, tout à fait déterminant pour l'avenir de l'islam aujourd'hui et pour les relations de l'islam avec les autres croyants, le reste du monde. Donc ce travail sur les origines, comme le disent beaucoup de savants musulmans d'ailleurs aujourd'hui aussi, ce travail sur les origines est un travail déterminant. Et donc il ne s'agit pas simplement de reconstituer des événements du passé, mais d'accueillir un récit comme un récit d'origine qui dit une identité de façon permanente jusqu'à aujourd'hui et qui marque aussi un des rapports importants. Voilà, je vous remercie de votre patience et la semaine prochaine, nous poursuivrons avec un survol très rapide de la diversité du développement historique de l'islam pour que nous puissions prendre en compte cette autre dimension, hein, qui est cette énorme richesse, hein, culturelle, artistique, géographique, hein, qui a traversé le monde musulman.